Bonjour, chers frères. C'est un plaisir de vous voir tous. Avant d'entamer le message, j'ai une question très importante à vous poser et à tous. Qui se réjouit de la chaleur de cette semaine? 95 et plus, 6, 7 jours d'affilée, sans pluie, en plein soleil. Vous n'êtes que 3, 4, 5, quelques-uns. J'en prends note. Je vous parlerai après la Pentecôte demain. Car nous serons heureux de vous compter parmi les membres de l'équipe à l'extérieur, sur le terrain. Certains d'entre nous sont peut-être en train de s'étioler et de fondre. Nous aurons besoin de votre aide. Nous attendons ce temps avec impatience tout au long de l'hiver, du moins en tant que bon Canadien, comme je l'ai fait. Je me réjouis de la chaleur de l'été. C'était un soulagement agréable après le froid de l'hiver, et nous en profiterons donc cette semaine. Ce que nous n'apprécierons peut-être pas, c'est de courir avec tous les tuyaux d'arrosage pour empêcher tout ce qui est vert de se flétrir et pour nous empêcher de nous flétrir nous aussi. Comme je l'ai dit, cela n'a rien à voir avec le message. Avant d'entrer dans le message, j'ai noté ces noms et je vous en parlerai plus tard. Nous savons tous que la Pentecôte aura lieu demain, ce qui marquera la fin des vacances de printemps, comme nous le faisons chaque année. Depuis la Pâque, nous nous remémorons les grands événements que Dieu a accomplis au cours de l'histoire, et nous les passons en revue. Nous regardons vers ces événements et nous voyons ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, ceux qui entendront ceci dans les champs, s'ils sont ici dans les champs, les vacances de printemps seront derrière eux. Je veux regarder un grand événement que Dieu a fait. Un grand événement rempli de miracles, et je voulais l'examiner comme une façon de regarder en arrière et une façon de regarder en avant. Vous vous demandez peut-être ce que nous allons examiner. Eh bien, je veux examiner de près le règne du roi Salomon. Quelles leçons pouvons-nous en tirer personnellement? Quelles leçons pouvons-nous en tirer pour les appliquer aujourd'hui? Une leçon très importante, une leçon spécifique. Quels sont les parallèles avec le royaume de Dieu à venir et comment cela montre la grandeur de Dieu? Nous ne nous penchons pas souvent sur le règne de Salomon. Cet après-midi, nous le ferons. Il s'agira d'une petite leçon d'histoire, d'un petit tour dans les détails que nous ne regardons pas toujours. Je suis sûr que vous avez déjà rencontré cela à un moment ou à un autre, juste pour vous donner une idée. Si vous commencez à vous intéresser à la création dans le monde, à la façon dont la terre a été créée et à la façon dont Dieu a créé l'homme et l'a placé sur la terre, et que vous faites des recherches en ligne, vous constaterez qu'en général, l'humanité minimise ce qui se trouve dans la Bible. Elle dira que ce n'est qu'une histoire. Ce n'est qu'une analogie. Ce n'est pas vraiment arrivé. Combien d'autres événements? Le déluge. L'inondation n'était qu'une inondation locale. L'arc n'était pas si grand. Tous les animaux ne s'y trouvaient pas, etc. La mer rouge, non. Moïse a juste fait traverser la mer des roseaux à quelques Israélites, pas la mer rouge. Si vous regardez en ligne, vous verrez que c'est ce que fait l'homme. C'est ce que le Dieu de ce monde a fait à tout ce que Dieu a fait de grand. Si vous faites des recherches, les historiens les rapetissent, les rendent insignifiants. Si vous cherchez le roi David, beaucoup se demanderont si le roi David a réellement existé. De nombreux historiens ne croient pas qu'il s'agisse d'un personnage réel. Si vous cherchez le roi Salomon essentiellement, beaucoup diront qu'il n'était qu'une légende. Si je dis tout cela, c'est parce que nous sommes différents. Nous regardons la parole de Dieu, la Bible, et nous y croyons. C'est ce que Dieu a dit. Ce qui s'est passé dans la Bible est ce qui s'est passé. Nous la lisons et nous croyons que Dieu l'a fait comme il l'a dit, et non pas comme le Dieu de ce monde l'a rendu plus petit. Ainsi, lorsque nous nous penchons sur le règne du roi Salomon, ses parallèles, la manière dont il montre la grandeur de Dieu et la leçon que nous en tirons. Nous allons voir comment Dieu voit les choses. Comment Dieu le transmet. Pas comme le monde le fait, parce que le monde se demande si le règne de Salomon a vraiment eu lieu. Et, bien sûr, ils le font parce que cela a une grande signification et que cela montre la grandeur du Dieu que nous servons et en qui nous croyons. Pour commencer, allons à 1er Roi 3 et au verset 5. C'est en quelque sorte le début de l'histoire de Salomon, elle commence avant, mais c'est le début de son règne. Dans 1er Roi 3 et au verset 5, nous allons nous plonger un peu dans le contexte où Salomon montait pour sacrifier à l'Éternel, pour sacrifier à Dieu, et nous allons lire. Commençons la lecture au verset 4. Dans 1er Roi 3 et au verset 4, nous commençons à regarder son règne. Le roi se rendit à Gabaon, le roi Salomon, pour y offrir des sacrifices, car c'est là que se trouvait le grand haut lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. Pour commencer, l'homme, et les historiens disent, est-ce possible? 1000 holocaustes. C'est ce que Dieu a dit, pour préparer le terrain. C'est ce que Salomon a fait. Pourriez-vous imaginer faire cela vous-même? Mettez-vous dans ses chaussures ou ses sandales et faites ces 1000 holocaustes. Cela rend l'image réelle. À Gabaon, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu dit, « Demande ce que je te donnerai. » Salomon dit, « Tu as fait à ton serviteur David, mon père, une grande miséricorde, continuez à lire ici, selon qu'il a marché auparavant dans la vérité, la justice et la droiture de cœur, et tu lui as gardé sa grande bonté, et tu lui as donné un fils pour qu'il s'asseye sur son trône, comme il l'est aujourd'hui. Et maintenant, Seigneur mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et je ne suis qu'un petit enfant. Je ne sais ni sortir ni entrer. » Dieu lui dit, « Demandez, et vous recevrez. Demandez ce que vous voulez, et je vous le donnerai. » Et voici que Salomon expose sa demande. « Et je ne sais ni sortir ni entrer. Et ton serviteur est au milieu d'un peuple que tu as choisi, d'un grand peuple qu'on ne peut ni compter ni dénombrer. Combien de millions d'Israélites y avait-il ? » Là encore, les livres d'histoire diront peut-être, peut-être 1 million. Combien de millions y avait-il ? Quelle était la taille de la nation ? Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, afin de discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ce peuple si nombreux? L'Éternel se réjouit de cette demande de Salomon. Il a donc demandé à Dieu de lui donner un cœur intelligent pour juger son peuple. Et la réponse de Dieu à sa demande, Dieu lui dit, « Parce que tu as demandé cette chose, tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, ni des richesses pour toi, ni la vie de tes ennemis, mais tu as demandé pour toi l'intelligence pour juger. Voici, j'ai agi selon vos paroles. Voici, je t'ai donné un cœur sage et intelligent, afin qu'il n'y ait personne comme toi avant toi, et qu'il n'y ait personne comme toi qui se lève après toi. » Je lirai le verset 13 pour terminer ici. Je t'ai donné ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, afin qu'il n'y ait personne comme toi parmi les rois, jusqu'à la fin de tes jours. Ici, Dieu demande à Salomon en tant que roi, alors qu'il vient d'être couronné, qu'aimeriez-vous? De quoi avez-vous besoin? Salomon demande la sagesse, et Dieu la lui donne. En fin de compte, l'ensemble du règne de Salomon a commencé par ce que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné la sagesse et un cœur intelligent. Dieu lui a donné cela et cela pour l'enseigner à Israël. Voyons comment cela a affecté Israël. Nous n'entrerons pas dans l'histoire complète en parcourant le chapitre 3 ici. Nous connaissons les deux femmes, l'enfant qui est mort et la façon dont Salomon explique le partage du bébé, mais c'est sur le verset 28 que je veux me concentrer. Voici l'effet de la sagesse que Dieu a donnée à Salomon. La grande chose que Dieu a faite en donnant à Salomon la sagesse pour qu'il puisse avoir un bon jugement. Lisons le verset 28. Tout Israël entendit parler des jugements que le roi avait rendus, et ils craignirent le roi, car ils virent que la sagesse de Dieu était en lui pour exercer le jugement. Donc, pour commencer son règne, Dieu lui a donné la sagesse. Dieu lui a donné la capacité de juger. Nous allons voir comment cela a mis les choses en place, comment cela a mis les choses en ordre pour le reste de son règne. Mais pouvez-vous imaginer qu'on vous ait donné la sagesse comme on l'a donnée à Salomon? Imaginez la capacité qu'il avait de prendre des décisions, de porter un jugement juste, d'enseigner à tout Israël, d'enseigner à ses princes et à ses chefs, et pour ses chefs et ses princes d'enseigner au reste et à tout le royaume, à toute la nation. Tout Israël craignait le roi. Ils honoraient le roi. Ils regardaient vers le roi. Et c'est ainsi que le royaume, son règne, est devenu quelque chose qui n'a jamais existé sur terre, ni avant, ni depuis. Passons à 2 Chronique 9 et au verset 23. Salomon, dans sa sagesse, qu'a-t-il enseigné? Il parle un peu d'un parallèle entre son règne et le royaume. Passons à 2 Chroniques 9 et au verset 23. Construisons une image de l'un des parallèles. Donc, dans 2 Chroniques 9 et verset 23, et nous allons aussi nous amuser un peu ici avec un peu d'histoire. Nous allons aussi nous amuser un peu avec l'histoire et ouvrir notre esprit à ce que Dieu a fait avec le règne de Salomon, avec l'effet de donner à Salomon, en fin de compte, la sagesse de Dieu, la capacité de Dieu à rendre un jugement juste. Lisons donc le verset 23 du chapitre 9 de l'Épître aux Chroniques. Nous reviendrons peut-être sur ce chapitre plus tard, mais lisons simplement ce verset. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon, pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Comme je l'ai dit plus tôt, après la création, le déluge, Moïse et d'autres événements, nous sommes un peuple différent. Nous lisons la parole de Dieu et nous la prenons pour ce qu'elle est. Au début de ce verset, il est dit, « Tous les rois de la terre recherchèrent la présence de Salomon. » Tous les rois. Je sais que mon esprit a grandi en Amérique du Nord et au Canada. Je connais les leçons d'histoire que j'ai reçues de l'école publique. Je considère notre histoire, et ma vision de l'histoire est très étroite. Je vais examiner ce verset sans tenir compte de ce que nous croyons et sans croire en Dieu comme nous croyons en Dieu. Eh bien, il ne s'agissait que des rois autour de Salomon. Ce n'étaient pas tous les rois de la terre. Expliquons cela. Dieu dit qu'il s'agissait de tous les rois de la terre. Il y avait une civilisation Olmèque en Amérique centrale. Ils sont devenus les Aztèques plus tard. Ils avaient des rois. Ce verset dit que tous les rois de la terre cherchaient Salomon. Cela change un peu la donne. Il y a une dynastie Zhou en Chine. L'un de leurs rois, et c'est une remarque accessoire, était connu pour ses grands voyages. Je sais que je spécule. A-t-il voyagé pour voir ce que Salomon avait à dire? L'Égypte et la Syrie, bien sûr, toutes proches, avaient des rois et des pharaons. Sont-ils venus voir? Sont-ils venus voir ce qu'il avait à dire? Et les Hittites? Même les Grecs. Les Grecs sont fréquents dans nos cours d'histoire. Ils avaient des dirigeants à l'époque. Leurs rois sont-ils venus voir ce qu'ils avaient à dire? La parole de Dieu dit que tous les rois de la terre cherchaient la présence de l'Éternel. S'agissait-il seulement des pays voisins, ou de tous? J'ai cité des rois que nous connaissons, ou que les archéologues connaissent, qui ont régné sur toute la Terre, de l'Amérique centrale à la Chine, en passant par l'Égypte, la Syrie, les Hittites, les Grecs. Je suis sûr qu'il y en ait d'autres. La parole de Dieu dit qu'ils sont tous venus. Quelle fut la grandeur du règne de Salomon? Voyons 1er roi, disait le verset 24 pour compléter un peu le tableau. 1er roi, 10e et 24e verset. En marge des leçons IA ou CBL que nous avons aujourd'hui, je dirais qu'en tant que petit garçon, j'ai appris à connaître Abraham. J'ai appris à connaître le roi David et le roi Salomon, et pour une raison quelconque, j'ai toujours pensé qu'Abraham était là, tout seul, au Moyen-Orient, et qu'il ne se passait rien d'autre. Nous savons par l'histoire, et si vous étudiez l'histoire, qu'il s'est passé beaucoup d'autres choses. Si vous lisez la Bible et que vous voyez le roi Salomon régner, vous pensez que c'est la seule chose qui se passait sur terre, alors qu'il se passait beaucoup de choses sur terre. Il se passait beaucoup d'autres choses sur la terre et le règne de Salomon a été beaucoup plus important. 1er roi disait verset 24, « Beaucoup plus grand que la façon de penser de l'homme du monde ne le verrait jamais. » Voici donc, 1er roi disait le verset 24, un autre verset qui dit la même chose. Et toute la terre cherchait Salomon pour écouter sa sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Nous allons nous pencher sur ce qu'il a enseigné. Mais toute la terre cherchait Salomon, et c'est intéressant, ma marge dit chercher le visage de Salomon. Il ne voulait tout simplement pas le voir, l'entendre ou entendre parler de lui, ou s'il y avait des tablettes ou tout autre moyen de communication ou d'écriture à l'époque, il voulait lire à son sujet ou il voulait voir son visage. Il voulait le voir en vrai. Et il est dit toute la terre. Savez-vous que nous aimons les histoires? Nous aimons toujours une bonne histoire. Pouvez-vous imaginer à quelle vitesse l'histoire du roi Salomon s'est répandue dans le monde entier? C'est possible. Et nous lisons la parole de Dieu et elle dit toute la terre. Faites tourner ce rouleau. À quoi cela ressemblait-il? Comment cela s'est-il passé? Comment cela s'est-il produit? Bien sûr, nous ne pouvons pas tout savoir. Mais ici, Dieu dit à nouveau que toute la terre cherchait Salomon, cherchait son visage, voulait le trouver, voulait le voir. Allons à 1er roi 4 et au verset 29, et lisons maintenant ce qu'il a enseigné, un peu, un résumé de ce qu'il a enseigné. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas de sermon ou de série de sermons qui pourrait passer en revue tout ce que Salomon a enseigné, et vous verrez pourquoi dans un instant. Mais 1er roi 4 et le verset 29. Et nous lirons jusqu'au verset 34 et nous discuterons ensuite des Écritures. Dieu donna à Salomon de la sagesse et de l'intelligence à profusion, et de la bonté de cœur, comme le sable qui est sur le bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassa la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse de l'Égypte. Réfléchissons un instant. Tous les enfants de l'Orient, donc tous les enfants de l'Orient, sa sagesse a été plus grande que la sienne. Et encore une fois, je dirais que je spécule. Est-ce la raison pour laquelle un roi en Chine était connu pour ses longs voyages? Parce que tous les rois le recherchaient? Parce que tous les rois le recherchaient, cherchaient à entendre ce qu'il avait à enseigner. Et pouvez-vous imaginer aussi toute la sagesse de l'Égypte? Voilà qui nous rapproche un peu plus de notre école. Nous savons que nous nous tournons vers l'Égypte pour sa sagesse, ses capacités et ce qu'elle a fait au cours de l'histoire, mais la sagesse de Salomon a surpassé tout cela. La sagesse de Salomon, la sagesse que Dieu lui a donnée, était plus grande que tout ce qui se trouvait en Égypte. Et nous savons ce que représente l'Égypte. L'Égypte représente le monde, la sagesse de Dieu, bien sûr, est meilleure que toute sagesse qui existe dans le monde. Vous pouvez commencer à comprendre pourquoi tous ceux qui ont entendu l'histoire de ce roi voulaient venir le voir, lui parler et l'écouter. Car il était plus sage que tous les hommes, qu'étant les Rachites, qu'Aiman, que Chalcol et que Darda, fils de Mahol, et sa renommée s'étendait à toutes les nations d'alentour. Il prononçait 3000 proverbes, et ses chants étaient au nombre de 1005. On peut supposer qu'il les a tous gardés en mémoire. Il a prononcé 3000 proverbes. Je ne pense pas qu'ils soient tous rapportés dans la Bible. Et ses chants étaient au nombre de 3005. Vous imaginez? Voudriez-vous tous les entendre? Ils sont tous la sagesse de Dieu. À un moment donné, nous le ferons. Quand nous serons dans le royaume, nous pourrons tous les entendre, nous pourrons tous les comprendre. Il parla des arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui jaillit de la muraille. Donc du plus grand arbre, le cèdre du Liban, au plus petit arbre qui pousse dans une fissure de mur. Il parla aussi des bêtes, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Tout le peuple vint écouter la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Ici, il est expliqué ce que Salomon a enseigné. Revenons au verset 29. Juste trois mots ici, sagesse, compréhension et cœur, développés à partir de ce que sa sagesse, ce qui a donné la sagesse, la compréhension, l'abondance et la grandeur d'âme. La sagesse, le mot hébreu ici, parle de la guerre, de l'administration, des affaires religieuses, du raisonnement éthique, donc de toutes les administrations de l'État. Compréhension et intelligence. Compréhension active, perspicacité. Quelle est la profondeur de cette compréhension? 3000 proverbes. La connaissance des objets, un enseignant. Il était donc capable d'enseigner. Non seulement il possédait toute cette sagesse, mais toute cette sagesse pouvait être enseignée. C'est pourquoi tous les hommes voulaient voir son visage. Et un cœur, l'homme intérieur, l'esprit, la partie sauvage, intérieure. Siège des émotions et de la passion, siège du courage et du caractère. Il connaissait le cœur. Il comprenait le cœur. Dieu lui avait donné cette capacité. Quelle était la profondeur et l'étendue de la sagesse de Dieu donnée à Salomon? Quelle quantité de ces proverbes voulez-vous entendre? Ou de ces chants voulez-vous entendre? En passant, nous avons lu, nous avons parlé des arbres, il a parlé des animaux. Que savait-il? Nous savons que dans l'Ecclésiaste, il parle de l'esprit d'un animal, ce qui est intéressant. Nous rencontrons de nombreux animaux ici sur le campus, et c'était l'année dernière, debout derrière la grange à poteaux, l'un des membres de l'équipe chargée de l'entretien des terrains, et nous étions en train de discuter de certaines choses à propos de la journée. Nous regardions la vallée et nous avons vu un cerf qui se promenait tout seul et, juste à côté, son ami, un dindon sauvage. Et tous les deux étaient juste, comme, je suppose, le. Je dirais ceci, comme les plus jeunes le diront, les deux étaient juste en train de se détendre dans la vallée. Rire, je n'arrive pas à croire que je viens de dire que les jeunes disent cela. Parce que vous savez ce que cela veut dire? Que je ne le suis pas, mais que je suis tout le contraire. Oh, eh bien, le temps passe, malheureusement. Quoi qu'il en soit, revenons à l'histoire. Voici donc ce cerf et cette dinde sauvage qui marchent dans la vallée. Nous en avons discuté, et nous en avons même discuté ce soir-là à la maison, et pour une raison quelconque. Mon fils avait déjà cherché pourquoi un cerf et une dinde sauvage marcheraient ensemble pour une raison quelconque. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle il a cherché, mais il connaissait déjà la réponse. En fait, Le cerf entend très bien et la dinde voit très bien. Ils se soutiennent donc l'un l'autre. Ils se protègent l'un l'autre. Ils s'avertissent mutuellement de la présence d'une proie. Je voudrais revenir à... Revenons à la sagesse de Salomon. Il a parlé d'une bête. Savait-il ce qui se passerait entre le dindon et le cerf? Savait-il quel était le dessein de Dieu pour ces deux-là, pour qu'ils se fréquentent, pour qu'ils soient ensemble, pour qu'ils soient copains? Eh bien, que savait Salomon? Que pouvons-nous savoir? Qu'allons-nous savoir? Nous pouvons savoir beaucoup de choses grâce à la parole de Dieu, mais que saurons-nous à l'avenir si nous regardons en arrière et si nous nous projetons dans l'avenir? L'autre partie dont Salomon a parlé, ce sont les arbres. Plus je travaille sur le campus, plus je suis émerveillé par la création de Dieu. Plus je l'étudie. Et ce n'est que récemment que j'ai découvert quelque chose qui a complètement changé ma façon de penser au sujet de la création de Dieu, et plus particulièrement au sujet des arbres. Cela nous ramène à la sagesse de Salomon. Qu'est-ce que Dieu lui a donné? Que pouvait-il comprendre? Grâce à ces outils, l'homme a finalement prouvé que deux arbres d'espèces différentes partagent leurs ressources. Lorsque l'un d'eux reçoit plus de ressources du soleil, il les transmet à l'autre arbre par le sol. Ils ne sont pas de la même espèce. Ce sont des espèces différentes. Je crois qu'il s'agit d'une fougère et d'un bouleau. Cela s'est produit, je crois, dans... Oh, c'est arrivé dans toutes les forêts, mais là où ils l'ont testé, c'est dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Deux arbres travaillaient ensemble, en quelque sorte. Je veux dire qu'ils humanisent peut-être trop la chose, mais que savait Salomon? Savait-il cela sans l'équipement scientifique dont nous disposons? Dieu a-t-il montré à Salomon que et qu'est-ce que ces deux arbres auraient pu faire? Ces deux arbres travaillent ensemble. C'est une autre histoire sur la façon dont ces arbres travaillent ensemble et sur le Dieu que nous servons. D'abord, ce que l'humanité pense de la création et des arbres, mais revenons à Salomon, à la sagesse qu'il connaissait. S'il a parlé des arbres, je suis presque sûr qu'il n'a pas seulement parlé de leur apparence, de leur forme, qu'il les a décrits. Je suis sûr qu'il a parlé de la façon dont ils fonctionnent, de la façon dont ils travaillent ensemble, de la façon dont toute la création de Dieu fonctionne ensemble. Laissons tout cela, à la fois l'histoire de l'animal, l'histoire des arbres, l'éclosion de la sagesse, la compréhension dans le cœur, laissons tout cela se dérouler et voyons combien de sagesse Dieu a donné à Salomon, combien elle était grande et vaste, et pourquoi tout autour de la terre à l'époque qui a entendu parler de Salomon a voulu le voir, a voulu lui parler. Passons à Proverbe 1 et au verset 2. Je vais donc vous présenter quelques-uns de ces proverbes. Je ne lirai que les deux premiers passages, mais dans les proverbes, la sagesse est mentionnée 38 fois, l'intelligence 19 fois, mais le cœur est mentionné 91 fois. D'une certaine manière, où est l'Esprit de Dieu? Comprendre le cœur, comprendre leur cœur, nos cœurs, c'est ce qui est le plus important, ce qui est le plus important dans les proverbes. Donc, les proverbes de Salomon. Proverbe 1, verset 1. Les proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour percevoir les paroles de l'intelligence. Puis, dans le reste du livre des Proverbes, il a consigné ce qu'il a enseigné, ce que Dieu lui a donné. Quel est le parallèle? Nous arrivons à la fin de cette section. Passons à Michée 4 et au verset 2. Le parallèle avec le royaume, nos esprits ont été élargis à la grandeur de la sagesse que Dieu a donnée à Salomon. Quel est le parallèle avec le royaume? Nous lisons souvent ce verset lorsque nous passons les vacances de printemps et que nous nous dirigeons vers les vacances d'automne. Nous regarderons également vers le royaume à venir, tel qu'il est, alors que nous l'attendons tous avec impatience. Voici ce que nous attendons avec impatience. Michée 4, verset 2, « Des nations nombreuses viendront, et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, et à la maison de Jacob. Il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem que sortira la parole de l'Éternel. » Nous venons de parcourir quelques passages des Écritures qui montrent que pendant le règne de Salomon, tous les rois de la terre sont venus à Jérusalem pour écouter Salomon. Tous ceux qui entendaient sur la terre venaient voir sa face. Nous verrons que dans le royaume, lorsque Dieu régnera sur la terre et que le royaume sera là, toute l'humanité fera de même. Un parallèle étonnant, et l'une des raisons, nombreuses, pour lesquelles le Dieu de ce monde, pour lesquelles les historiens de ce monde rendront l'histoire de Salomon aussi petite que possible. Le Dieu de ce monde ne veut pas du royaume de Dieu ici. La section suivante. Comment étaient les Israélites sous le règne de Salomon? Comment était-ce pour lui? Quand sera-t-il dans le royaume? Et quelle en sera la grandeur? Ce sont les questions dont nous discutons cet après-midi. Passons à la première. Tout d'abord, allons à 1 Roi 4 et au verset 20. J'aurais pu mentionner tout à l'heure que vous auriez pu laisser le marqueur à 1 Roi 4. Nous revenons souvent à 1 Roi. 1 Roi 4. Nous commencerons la lecture au verset 20 et nous irons jusqu'au verset 25. Juda et Israël étaient nombreux. Répète ce que nous avons lu plus tôt, comme le sable qui est au bord de la mer, et ils étaient nombreux à manger, à boire et à se réjouir. Donc les Israélites sous le règne de Salomon, comme nous venons de le lire sous la sagesse et l'enseignement de Salomon qui venait de Dieu, qu'est-ce que c'était pour Israël? Comment était-ce pour les Israélites? Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. C'était une époque formidable. C'était une bonne époque. Poursuivons notre lecture au verset 21. Lisons ce qui concerne Salomon. Salomon régna sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et servaient Salomon tous les jours de sa vie. Les provisions de Salomon pour un jour étaient de 30 mesures de fleurs de farine, 60 mesures de semoule, 10 bœufs gras, 22 de pâturage, 100 brebis, des bœufs, des chevreuils, des daims et des volailles grasses. Il domina sur toute la contrée de l'autre côté du fleuve, depuis Tinfa jusqu'à Hadza, et sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, et il eut la paix de tous côtés. Juda et Israël habitèrent en sécurité. Chacun était sous sa vigne et sous son figuier, depuis Dan jusqu'à Beersheba, pendant toute la vie de Salomon. Nous voyons donc ce qu'il en était pour Israël. Ce qu'il en était pour les habitants de Juda et d'Israël sous le règne de Salomon, sous la sagesse de Dieu. Regardons le verset 25. Regardons ce verset plus en détail et c'est une analogie de comment c'était sous le règne de Salomon. Regardons maintenant. Habiter ici, c'est demeurer. Développer l'image. À quoi cela ressemble-t-il? Nous savons que le sens de ce verset a une signification prophétique future et nous nous tournerons vers un verset de Michée plus tard. Mais regardons-le. Qu'est-ce que cela signifie dans le contexte actuel? Le tableau sous le roi Salomon dans le royaume d'Israël. Et pour commencer, et chacun sous sa vigne et son figuier, et pour habiter. Pour habiter en sécurité. Ici, habiter, c'est s'installer, s'établir, habiter et s'habituer, c'est faire en sorte de garder. Chacun a fait et gardé sa propre maison, Son propre lieu. Ils sont en sécurité. Un lieu de refuge. La sécurité et la confiance règnent tout autour. Il y a de l'assurance, de la confiance et de l'espoir pour tous ceux qui sont en Israël, pour tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Quelle différence dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et la vigne, souvent la vigne équivaut au raisin, du moins en grandissant dans le sud de l'Ontario où nous étions entourés de vignobles. La vigne, c'est le raisin. Et qu'est-ce que cela évoque culturellement dans notre société d'aujourd'hui et dans la société d'alors? Eh bien, cela évoque le vin, la paix, la joie, la gaieté, le bonheur. Nous l'avons lu plus tôt. Tout Israël boit et se réjouit. Ils sont comblés. Ils ont reçu d'énormes bénédictions. Ils avaient l'abondance. Le figuier, comme analogie, ici, et pour peindre le tableau du royaume sous Salomon, il y a de la nourriture en abondance. Il y a de l'ombre et un abri. Encore une fois, tout Israël était pourvu. En parallèle, nous regardons, allons à Michée 4 et au verset 4 juste pour peindre l'image un peu plus large, peindre l'image avec un peu plus de détails. Il y a un mot dans Michée 4 qui n'était pas dans Premier Roi. Alors que nous nous penchons sur le règne de Salomon, pour nous tourner vers le royaume de Dieu et ce à quoi il ressemblera, allons dans Michée. J'ai trouvé Michée rapidement tout à l'heure, mais pas cette fois-ci. Très bien, Michée 4 et le verset 4. Lisons le verset en entier. Ils s'assiéront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et personne ne les effrayera, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Donc, bien sûr, cela renvoie à l'avenir. Cela renvoie à une époque future et à une signification plus grande que les mots que j'ai énoncés. Nous n'y reviendrons pas, mais il y a un mot différent ici. Le mot supplémentaire qui se trouve dans cette partie est « personne ne les effrayera ». Les mots « peur », « trembler de terreur », « se hâter avec anxiété », « malaise », « s'effilocher », « trembler et trembler ». Il s'agit d'un désordre, d'un tremblement, d'une secousse, d'une gêne. Sous le règne de Salomon, pendant ses 40 ans, personne n'a eu peur. Qu'est-ce que c'était? Regardons les nouvelles d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, ce que nous attendons tous avec impatience, pour toute l'humanité, lorsque le royaume de Dieu sera là. J'oserais dire qu'avoir peur est quelque chose que nous faisons presque naturellement chaque jour, même si là où nous vivons, nous parlons ici, au siège de Dieu à Wadsworth, Ohio, nous vivons dans une paix et une sécurité relatives, ce qui n'est pas le cas de la plus grande partie du monde. Même la majeure partie de notre propre pays ne l'est pas. Mais la peur fait partie de notre existence. Nous fermons nos portes à clé. Nous verrouillons nos voitures. Nous sommes inquiets si nous conduisons dans certaines villes, dans certains quartiers de certaines villes. Si quelqu'un qui n'est pas bien habillé ou qui a l'air d'un opposant s'approche de nous, nous avons peur. Nous avons peur. Il n'y a presque pas de jour où, c'est tout simplement ce que nous faisons. Quand on va sur Internet, pour une raison ou une autre, on voit ce qu'on voit. Et nous nous inquiétons de la cybersécurité. Quelqu'un va-t-il faire de l'hameçonnage? Est-ce que quelqu'un va pirater mes comptes? C'est toujours avec nous. C'est toujours dans un coin de notre tête. Pourrions-nous au moins? Pourrions-nous même comprendre ce que c'est que d'être dépossédé de tout ce que nous ne craignions pas, que nous n'avons pas peur du tout? Quelle a été la grandeur du royaume de Salomon? Grâce à ce que Dieu lui a donné, grâce à ce que Dieu a béni pour Israël, quelle sera la grandeur du royaume que vous ne craignez pas? Pourtant, nous avons tous, ou beaucoup d'entre nous ont des enfants. Beaucoup d'entre nous, nous sommes tous entourés d'enfants. Ne jamais avoir peur pour leur sécurité. Oui, ici, sur le campus, nous avons un exemple de ce que c'est que d'être dans le royaume, quand nous ne nous inquiétons pas, nécessairement, de la même manière pour nos enfants. Mais dans le monde, dans ce monde, c'est constant. Tout le monde pense à sa sécurité. Imaginez que ce ne soit jamais le cas. Qu'une mère n'ait jamais à s'inquiéter ou à avoir peur pour ses enfants. Qu'est-ce que c'était? Comment était-ce à l'époque du roi Salomon? Qu'en sera-t-il à l'avenir? La grandeur du règne du roi Salomon, l'importance de l'exemple qu'il a donné, c'est, pour nous tous, un petit retour en arrière aujourd'hui, alors que nous nous tournons vers l'avenir. Qu'est-ce que Salomon a fait d'autre? Parlons un peu de ce qu'il a planté et de ce qu'il a construit. Passons à l'Ecclésiaste 2. La sagesse que Dieu a donnée à Salomon, avec la paix que nous avons lue, que Dieu lui a donnée, les capacités, les richesses, les ressources. Qu'a-t-il fait? Allez à Ecclésiaste 2. Et lorsque nous lisons ceci, et que nous lisons ce que Salomon a fait, avec la sagesse que Dieu lui a donnée, avec les ressources que Dieu lui a données, je me rappelle toujours, curieusement, que Christ, lorsqu'il était sur terre, était un charpentier. Il construisait aussi. Il a toujours fabriqué des choses, des maisons, des abris, d'autres. Probablement qu'un charpentier fabriquait des meubles. Une quantité infinie de choses. C'était un bâtisseur. Que faisait Salomon avec tout ce que Dieu lui avait donné? Il était aussi un bâtisseur. Allons à. Nous sommes tous dans l'Ecclésiaste 2, au verset 4. La formulation est un peu maladroite dans la version anglaise de la King Jack. J'ai fait de grands travaux, j'ai bâti des maisons, j'ai planté des vignes. J'ai fait des jardins et des vergers, et j'y ai planté des arbres de toute espèce de fruits. J'ai fait des étangs d'eau pour arroser le bois qui produit les arbres. Je me suis procuré des serviteurs et des servantes, et j'ai fait naître des serviteurs dans ma maison. Je possédais de grands biens, du gros et du menu bétail, en plus de tous ceux qui étaient à Jérusalem avant moi. J'ai recueilli de l'argent et de l'or, et les trésors particuliers des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, des chanteurs et des chanteuses, des musiciens et des musiciennes de toutes sortes. Il construisit donc de grandes choses et il eut de grands divertissements, des divertissements appropriés de toutes sortes. J'étais grand et j'ai dépassé tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem, et ma sagesse est restée avec moi. Parlez un peu de ce qu'il a fait et de ce qu'était la société à l'époque, et comparez cela à ce que le monde pensera, à savoir que David, le père de Salomon, et Salomon n'étaient qu'une bande de chefs de tribus courant autour de ce qu'ils appellent tous non pas la terre promise, mais la Palestine ou le Moyen-Orient. Ils ne reconnaîtront pas cette terre pour ce qu'elle est. À quoi ressemblait une société? Nous y reviendrons lorsque nous apprendrons comment il a construit le temple de Dieu. Mais il a construit des maisons, pas une maison, plusieurs maisons. Il a planté des vignobles, des jardins, des vergers, des arbres et des bassins d'eau pour arroser le bois qui produit les arbres. Sur le campus, nous avons un système d'irrigation qui nous aide à faire face à la chaleur qui s'annonce et à garder les choses un peu plus vertes. Il ne fera pas ce que la pluie de Dieu peut faire, mais il aidera un peu. Ce que je trouve intéressant, personnellement, c'est de lire ce passage. Je me suis fait des étangs d'eau pour y arroser le bois qui produit les arbres. Il a donc planté des arbres et mis en place un système d'irrigation pour arroser ces arbres. Est-ce qu'il courait partout avec des seaux et que les Israélites n'avaient rien de mieux à faire que de porter des seaux autour des arbres ou est-ce qu'il y avait vraiment un système d'irrigation? Y avait-il vraiment une agriculture intensive pour subvenir à tous ses besoins, pour que tout cela se produise? Le règne de Salomon, le royaume de l'époque, était beaucoup plus complexe, beaucoup plus avancé que ce que l'humanité reconnaît à Dieu. Découvrons le temple de Dieu que Salomon a construit. Allons à 1 Roi 6 et au verset 1. À un moment donné, nous aurons l'occasion de parler à Salomon, à David, à tous les grands de la Bible. J'aimerais savoir ce qu'il a fait. Il n'avait pas les merveilles de l'électricité pour pomper l'eau des étangs, la faire passer dans des tuyaux, mettre en marche des arroseurs, mais il avait quand même un système d'irrigation. Il arrosait quand même ses arbres. Je veux savoir comment il s'y prenait. Je veux savoir quel truc il utilisait pour que l'herbe reste verte et les arbres luxuriants. Je suis sûr qu'ils avaient leur système, qu'ils faisaient des progrès. Peut-être qu'ils le faisaient mieux que nous. Ce serait amusant de l'apprendre en détail, en personne, un jour ou l'autre. Mais parlons de la plus grande chose que Salomon ait été autorisé à construire, que Salomon ait reçu les ressources pour construire, et nous entrerons dans tous les détails de la construction d'un temple. Nous allons entrer dans tous les détails de la construction d'un temple. Nous allons parler de quelques points forts. Commençons la lecture au verset 1 du chapitre 6 des Premiers Rois. La 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, la quatrième année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Ziv, qui est le deuxième mois, il commença à bâtir la maison de l'Éternel. Il s'agit d'établir le calendrier, la construction de la maison. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées. Les coudées peuvent représenter un pied et demi. Nous pouvons donc faire quelques calculs, et les 20 coudées sont proches de 30 pieds, sa longueur était égale à la largeur de la maison, et sa largeur devant la maison était de 10 coudées. Pour la maison, on fit des fenêtres à lumières étroites. Et l'on peut lire, il construisit des chambres tout autour du mur de la maison, et tout autour des murs de la maison, le temple et l'oracle, et il fit des chambres tout autour. Voici donc quelques détails. Sautons au verset 7, car ce verset parle de l'irrigation et de la façon dont il arrosait ses arbres. Parlons-en d'abord un peu. Lisons-le d'abord un peu. Lisons-le pour commencer. La maison, lorsqu'elle était en construction, était bâtie de pierres préparées avant d'être apportée sur le chantier, de sorte qu'on n'entendait ni marteau, ni hache, ni aucun outil de fer dans la maison, pendant qu'elle était en construction. Nous parlons donc de la grandeur du royaume de Salomon, que Dieu lui a donné. Nous voyons à quel point la société était avancée à l'époque, et à quel point le royaume de Dieu le serait. Même eux n'avaient pas le luxe que nous avons. Ils n'avaient pas de smartphone, ils ne pouvaient pas envoyer de SMS. Comment cela a-t-il pu se produire? Lorsque la maison a été construite, la pierre a été préparée avant d'être apportée sur le chantier. Le chantier était donc calme. Beaucoup d'entre nous, j'en suis sûr, se sont rendus sur un chantier. Quelqu'un a-t-il déjà vu un chantier silencieux, sans bruit? Très bien, je suis le seul à lever la main. C'est une bonne chose. Car si c'était le cas, vous seriez ici. Et si vous aviez été là, ce serait une histoire un peu différente. Aucun d'entre nous n'a. Non, aucun d'entre nous n'était là. Nous lisons ce récit pour notre édification. Pendant que le temple était posé, pendant que les fondations étaient posées, pendant que ces pierres massives qui constituent les fondations du temple étaient amenées sur le site, elles ont été mesurées et taillées à des kilomètres de là. Certaines d'entre elles ont été apportées du Liban. Comment communiquaient-ils entre eux? Quels étaient les plans? Comment les écrivait-il? Comment les ont-ils conçus? Comment communiquaient-ils entre eux? À quel point devaient-ils être avancés? Quel niveau de communication Israël, les ouvriers? Si vous lisez tout au long de Premier Roi, plutôt dans le chapitre, les ouvriers au Liban, comment savaient-ils ce qu'il fallait faire? Comment auraient-ils su ce qu'il fallait couper? Comment auraient-ils pu connaître les mesures? Non, ils n'avaient pas ce que nous pouvons faire, et nous pouvons envoyer un texte immédiatement pour rectifier une mesure parce qu'elle était erronée. D'un autre côté, si vous lisez le texte, la pierre est arrivée à la bonne taille, au bon endroit, au bon moment, à chaque fois. À quoi cela ressemblait-il? À quel point était-ce un bon chantier? Je vais me moquer, essayer de, lorsque les Égyptiens ont construit les pyramides, étaient-ils aussi silencieux? J'en doute. En fait, je sais qu'ils ne l'étaient pas, parce qu'ils n'avaient pas la main de Dieu pour le faire. Ils n'étaient pas guidés par Dieu. Ils n'avaient pas la sagesse de Dieu. Imaginez la construction du temple et le silence qui règne sur le chantier. Toute la communication, tous les plans, tous les architectes, l'ingénierie, les discussions, la planification qu'il aurait fallu mettre en œuvre pour que cela se produise, c'est incroyable, mais c'est arrivé. Nous y croyons. Il est difficile de comprendre comment cela est possible, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Demandez à n'importe quel ingénieur, à n'importe quel historien, et ils vous riront probablement au nez si vous leur dites « C'est comme cela que le temple a été construit ». Ils ne le croiront pas, mais nous le croyons. Nous l'acceptons comme la parole de Dieu. Le Dieu que nous servons est si étonnant. Passons en revue quelques autres passages du chapitre 6. Passons au verset 18, qui est étonnant par les détails qu'il contient tout au long de ces chapitres et aussi dans les deuxièmes chroniques. Nous ne pourrons en lire qu'une partie. Le cèdre de l'intérieur de la maison était sculpté de nœuds et de fleurs ouvertes. Tout était en cèdre, on ne voyait pas de pierre. Nous venons de parler de la pierre qui a été taillée et placée. Ensuite, toute la pierre a été recouverte de cèdre. Et je pense que les boutons, ma marge me dit qu'il s'agit de courges. Il y a donc des sculptures complexes dans le cèdre qui a été utilisé pour recouvrir le bois qui a été utilisé pour recouvrir la pierre. Et ce bois était recouvert de sculptures complexes. Les instructions qui auraient été nécessaires, le travail, les détails. Lisons le verset 20. Chaque fois que je le lisse, je suis stupéfait. Essayez de vous représenter dans mon esprit ce qui est décrit ici et plus encore. Nous allons commencer au verset 20, mais je vais expliquer. L'oracle de l'avant-scène avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Il le couvrit d'or pur, et il en fit autant pour l'autel de cèdre. La pierre était donc recouverte de cèdre, et le cèdre est maintenant recouvert d'or. Salomon couvrit d'or pur l'intérieur de la maison. Il fit une cloison avec des chaînes d'or devant le sanctuaire, et il la couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la maison, jusqu'à ce qu'il l'eût achevée, et il couvrit d'or tout l'autel qui était près du sanctuaire. Pouvez-vous imaginer à quoi cela ressemble? Le temple tout entier était recouvert d'or. Paragraphe: une belle journée ensoleillée. À quoi cela ressemblerait-il? Quelle vue étonnante, selon les instructions de Dieu concernant la construction du temple, pour montrer la gloire de Dieu, pour montrer la grandeur de Dieu. Quelle ressource Dieu a-t-il donné au roi Salomon pour qu'il puisse faire cela? À quel point ce monde voudrait-il atténuer les choses, en faire une légende, une histoire, alors qu'il s'agit des instructions de Dieu? Il s'agit d'une histoire. Voici les détails de la construction du temple de Dieu. Je ne pense pas qu'il y ait un bâtiment sur toute la Terre ou qu'il y en ait jamais eu qui ait été recouvert d'or de cette manière. Pas que je sache. Quelle serait la beauté d'un tel bâtiment? Incroyable. C'est incroyable ce que Dieu a pu faire sous le règne du roi Salomon. Nous regardons donc vers le temps où le royaume sera là, où le temple sera là et où Dieu sera là. Passons à deuxième chronique, septième verset, et lisons un peu le récit de l'époque où le temple a été construit. Lisez un peu le récit de l'achèvement du temple. Salomon a fait la prière de dédicace. Elle s'achève. Tout ce qui a été fait et tout ce que nous avons décrit ne sont que quelques-uns des détails concernant le temple. Nous parlons du royaume pendant que Salomon régnait sur le royaume de Dieu, en fin de compte. Comme je l'ai dit, nous regardons en arrière pour regarder en avant, mais imaginez cet événement. Imaginez ce que ce serait d'être ici, et nous pouvons voir pourquoi le monde fait n'importe quoi des grandes choses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament. Il essaie de les réduire à néant. Lisons le chapitre 7 et le premier verset. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma les holocaustes et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison du Seigneur, car la gloire du Seigneur avait rempli la maison du Seigneur. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils se prosternèrent le visage contre terre sur le pavé, ils se prosternèrent et ils louèrent l'Éternel, en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dieu a donc donné à Salomon la sagesse. Dieu a donné à Salomon d'immenses ressources. Le roi David a préparé le temple, il a préparé les ressources pour le temple. Salomon l'a construit. Et ici, nous voyons l'événement de la venue de Dieu dans son temple. Quel temps extraordinaire ce sera! Quel événement extraordinaire cela a été! Nous ne pouvons que nous demander à quoi ressemblera cet événement à l'avenir. L'image qu'il nous montre. Un temple couvert d'or, étincelant. Si vous pensez au feu descendant du ciel, au temple couvert d'or et à la lumière des flammes se reflétant sur lui, vous vous rendez compte de l'ampleur de l'événement. C'était un événement extraordinaire. Et ce sera encore le cas aujourd'hui. Quelle a été la grandeur du règne de Salomon? Quelle est la grandeur de cette époque? C'est presque insondable. Il est merveilleux que nous puissions le lire, nous en faire une idée et nous tourner vers l'avenir, quand tout sera à nouveau là. Le royaume de Dieu, Dieu entrant à nouveau dans son temple, c'est tout simplement incroyable. Lisons un peu plus ce que Salomon a fait, un peu plus de ce qu'il a construit. Passons aux secondes chroniques. Nous y sommes. Passons au chapitre 8. Oui, c'est la chose la plus importante qu'il a construite, le temple de Dieu, mais comme Dieu travaille, Christ était un charpentier tout au long de son règne, Salomon a construit. Lisons un peu plus à ce sujet. Deuxième chronique 8 et verset 1. Au bout de 20 ans, Salomon ayant bâti la maison de l'Éternel et sa propre maison, Salomon rebâtit les villes qu'Hiram lui avait restituées, et il les fit habiter par les enfants d'Israël. Salomon alla à Hamath-Zoba, et l'emporta sur elle. Il bâtit Tadmor dans le désert, et toutes les villes de rapport qu'il avait bâties à Halimas. Et il bâtit les villes entrepôts, les greniers, les villes où l'on entreposait toutes les denrées produites, qu'il construisit à Halimas. Il bâtit aussi Beth-Horon, la haute, et Beth-Horon, la basse, ville fortifiée, avec des murailles, des portes et des barres, ainsi que Bonlath et toutes les villes de rapport que possédait Salomon. Il leur a donc construit une salle. On en arrivera à un point où c'est innombrable. Et toutes les villes de chars. Il a donc construit de nombreuses villes pour garer toutes ses voitures, ses chars et les villes des cavaliers. Imaginez qu'il y ait une ville pour ses chars. C'est le cas pour les chars des Israélites. De quoi auriez-vous besoin pour avoir une ville uniquement pour les chars et une ville uniquement pour les cavaliers? Et tout ce que Salomon voulait bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays de sa domination. Tout le désir qu'il avait de construire. C'est ce que dit Mamarge. Tout ce que Salomon voulait construire, il l'a construit dans tout le pays. Il a construit, et nous savons qu'il était un enseignant. Nous savons qu'il a pris la compréhension que Dieu lui a donnée et qu'il l'a partagée. Je suis sûr qu'il a construit ces lieux et qu'il les a partagés avec tout Israël. Si Israël était heureux, si Israël était joyeux, c'est qu'il profitait de tout ce que Salomon avait fait. Tous ont pu y participer. Encore une fois, c'est l'image d'un royaume que le monde, dans un sens, à bien des égards, ne veut pas que nous connaissions. Passons à Ésaïe 2 et au verset 4 et lisons un parallèle de ce que toutes les ressources que Dieu a données à Salomon, toutes les capacités, la compréhension, l'enseignement, les détails et les dons accordés à ceux qui ont travaillé au temple et à d'autres projets de construction et qui ont dirigé le royaume sous Salomon, n'ont été possibles que grâce à l'aide de Dieu. Je vais d'abord me tourner vers l'avenir avant de revenir à l'époque de Salomon. Ésaïe 2 et le verset 4, ce que sera le royaume à venir. Il jugera les nations, il châtiera beaucoup de peuples. Ils briseront leurs épées pour en faire des socs, et leurs lances pour en faire des serpes. Les nations ne lèveront plus l'épée les unes contre les autres, et elles n'apprendront plus la guerre. C'est donc une image de la paix qui s'installe dans le royaume de Dieu lorsqu'il est sur cette terre. Passons à 1 Roi 5 et au verset 4. Nous savons que la paix viendra. Nous savons que Salomon a pu faire tout cela, tout ce que nous avons lu, tout ce qu'il a construit, que parce que Dieu a apporté la paix. Dieu apportera la paix sur cette terre, et durant ce grand royaume du passé, il a également apporté la paix. 1 Roi, chapitre 5, verset 4. Mais maintenant, l'Éternel, mon Dieu, a apporté la paix sur la terre. Mais maintenant, le Seigneur mon Dieu m'a donné du repos de tous côtés, de sorte qu'il n'y a ni adversaire, ni malheur qui survienne. Il n'y a donc même pas d'escarmouche. Il n'y a même pas quelqu'un qui jette une pierre sur le mur, ou une flèche sur la clôture ou la frontière. Il n'y a rien. Cela a donné à Salomon une grande opportunité, cela nous a donné un grand exemple de ce à quoi cela ressemblerait. Et s'il y a la paix sur la terre, nous le savons aujourd'hui, dans le monde des hommes, s'il y a moins de guerre, il y a plus de commerce. À l'époque de Salomon, Dieu lui a donné la paix et l'absence de malheur autour de lui. Nous savons que dans le royaume, il y aura également la paix. Regardons le commerce que Salomon a fait. Regardons à cause de cette paix, à cause de tout ce qu'il a construit. À cause de tout ce qu'il a construit, il a eu besoin de faire du commerce pour apporter une partie de ses ressources à la terre promise, au royaume. Passons à 1 Roi 9 et au verset 26. 1 Roi 9 et verset 26. Il faut aller un peu plus loin dans le chapitre 10, mais nous commencerons ici. Le roi Salomon construisit des navires à Ezion-Jobé, près d'Elot, sur le rivage de la mer Rouge, je crois que c'est là que se trouve Elot, dans l'Israël d'aujourd'hui, au pays d'Édom. Il a donc créé une marine de guerre. Il ne s'agissait pas d'un groupe de canoës, c'était un Canadien, pour traverser un groupe de petits lacs. C'était une marine de bateaux. À quoi ressemblait une marine à l'époque? Lisons un peu plus loin. Hiram envoya dans la marine ses serviteurs, des marins qui connaissaient la mer, avec les serviteurs de Salomon. Hiram avait donc des connaissances et il les a partagées et échangées. Il a partagé ses connaissances avec les serviteurs de Salomon. Ils allèrent à Ophla, en tirèrent de l'or, 420 talents, et l'apportèrent au roi Salomon. Il disposait donc d'une marine de guerre. Nous pouvons lire ailleurs que cette marine, si vous sautez sur « Il y a une page dans ma Bible ». Il y a une page dans ma Bible, premier roi disait le verset 22. Voyons si vous pouvez tourner une page là-bas, s'il le faut. Donc premier roi disait le verset 22. Ceci ajoute un peu à l'image. Car le roi avait en mercredi une marine de Tarsi et une marine d'Iram. Il avait donc deux marines. On pourrait dire que la marine de Tarsi était la mer Méditerranée. Il avait une autre marine avec Hiram qui se trouvait dans la mer Rouge. C'est ce que nous montre l'écriture que nous venons de lire. Et une fois tous les 3 ans, la marine de Tarsi venait apporter de l'or et de l'argent. Ainsi, une fois tous les 3 ans, la marine faisait le tour ou sortait en circuit. Vous pouvez voir l'effet au verset 23, où il est dit « Le roi dépassait en richesse et en sagesse tous les rois de la terre. » Tel était l'état du règne de Salomon, l'état de l'exemple du royaume de Dieu sur la terre. Ici, je veux expliquer l'image de ces marines, et nous allons regarder, faire quelques suppositions parce que les hommes diront que l'humanité n'était pas si intelligente à l'époque et ne pouvait pas voyager aussi loin. Mais un bateau appelé Trirème, que les Grecs ont rendu plus populaire, a été utilisé plus souvent en Méditerranée. Mais si Salomon avait un bateau similaire, quelle distance pouvait-il parcourir si ses marines partaient et revenaient une fois tous les 3 ans? Les Égyptiens avaient un bateau similaire. Et nous appelons cela une marine. Donc nous savons qu'ils ne sont pas dans un petit canot avec quelques pagaies et deux gars dans un petit bateau essayant de traverser la mer Rouge et d'aller jusqu'à l'océan Indien. Et ils connaissaient les voies de l'océan, Hiram avait envoyé ses serviteurs. Si l'un de ces bateaux n'a voyagé qu'un jour sur 3 pendant ces 3 années, quelle distance a-t-il pu parcourir? J'ai calculé qu'une fois par jour, il pouvait parcourir jusqu'à 100 km, 60 miles. Donc, une fois tous les 3 jours, il s'approche des 16 000 km. Désolé, je ne sais pas. Je n'arrive pas à convertir les kilomètres dans ma tête. Quelle distance parcourait-il s'il longeait les côtes? C'est ici que j'aimerais développer un exemple, peut-être un exemple réaliste. S'ils avaient une marine et qu'ils longeaient les côtes, qu'ils partaient de la mer Rouge et qu'ils voyageaient vers l'est, et qu'ils ne parcouraient qu'une partie de la côte, ils n'avaient pas d'autre choix. Et ils n'ont voyagé qu'une partie de ces 3 années. Ils auraient pu aller jusqu'à Singapour. Si vous n'arrivez pas à le voir sur une carte, sortez un globe ou Google Maps et regardez la distance. Ils pourraient aller aussi loin. N'est-ce pas étonnant de voir à quel point le royaume de Dieu était interconnecté et grand à l'époque, et jusqu'où allait Salomon? S'ils allaient dans l'autre sens et se dirigeaient vers le sud, puis vers l'ouest, ils iraient plus loin que le Cap, au fin fond de l'Afrique du Sud. Jusqu'où sont-ils allés? Et tout cela, oui, c'est un peu de la spéculation. Il y a un peu d'hypothèse de ma part, mais Dieu parle d'une marine et de deux marines. Ne parlons pas de la mer Méditerranée. S'ils étaient là et qu'ils voyageaient tous les 3 ans, jusqu'où auraient-ils pu aller? Jusqu'où auraient-ils pu aller en Europe? Regardez la grandeur du royaume que Dieu avait avec Salomon, à quel point ils étaient interconnectés, à quel point ils étaient détaillés, à quel point ils voyageaient. Voyons l'effet de tout cela. Nous le verrons un peu au chapitre 10. Nous connaissons tous l'histoire de la reine de Séba. Elle est venue d'Afrique. Elle est venue apprendre à connaître Salomon. L'une des choses sur lesquelles je veux me concentrer, nous allons d'abord en lire un peu, c'est ce qu'elle a apporté en relation avec le commerce qui se déroulait, à quel point si ces navires voyagent et reviennent à Salomon tous les 3 ans, jusqu'où peuvent-ils aller? Voyons un peu ce qu'il en est de la reine de Séba. La reine de Séba entendit parler de la renommée de Salomon en ce qui concerne le nom de l'Éternel, au chapitre 10 et au verset 1, et elle vint l'éprouver par des questions difficiles. Elle arriva à Jérusalem avec un très grand cortège, des chameaux chargés d'aromates, de beaucoup d'or et de pierres précieuses. Et lorsqu'elle fut arrivée auprès de Salomon, elle lui parla de tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon lui répondit à toutes ses questions, et il n'y eut rien de caché au roi qu'il ne lui eût dit. Lorsque la reine de Séba eut vu toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, le service de ses serviteurs, et au verset 5, l'assistance de ses ministres, leurs vêtements et ses échansons, elle vit toute sa cour, et à la fin du verset 5, il n'y eut plus d'esprit en elle. En un sens, elle s'est évanouie. Elle s'est en quelque sorte évanouie. Elle a été tellement bouleversée qu'elle s'est évanouie. Il n'y avait plus d'esprit en elle. Elle était faible. Elle dit au roi, « J'ai entendu dans mon pays un récit véridique des actes et de ta sagesse. Mais je n'en ai pas cru les paroles, jusqu'à ce que je sois venu et que mes yeux l'aient vu. » Et voici, nous sommes au verset 7, voici que la moitié ne m'a pas été racontée. Ainsi, même les histoires qui ont fait le tour du monde n'ont pas été vues dans leur intégralité jusqu'à ce que l'on vienne les voir. Et la sagesse et la prospérité dépassent la renommée que j'ai entendue. Et au verset 8. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, qui se tiennent continuellement devant toi, et qui écoutent ta sagesse. Béni soit le Seigneur, l'Éternel, qui prend plaisir à vous. C'est juste une image de ce qu'elle a vu, une image de ce qu'était la cour, une image, au verset 8, de ce qu'était tout Israël. Ils étaient tous heureux de servir leur roi, heureux de servir leur roi qui avait la sagesse de Dieu et qui enseignait la sagesse de Dieu. Encore une fois, quelle était la grandeur du royaume lorsque Salomon régnait? Quelle image pour nous, quelle image de ce qui arrivera? Allons au verset 22 ici, juste un exemple, le verset 10. En fait, lisons le verset 21. Tous les vases à boire du roi Salomon étaient d'or, et tous les vases de la maison de la forêt du Liban étaient d'or pur. C'est une image. Il n'y avait pas d'argent, on n'en faisait pas grand cas à l'époque de Salomon. Car le roi avait... 22. Très bien. Il me manque. Laissez-moi un moment. Il me manque le passage que je voulais examiner. Voyez si mon œil tombe dessus. Ce ne sera pas le cas, mais il est question de ce que la reine de Séba a apporté. À un moment donné, il est question de singes, de pans et de la distance qui sépare les pans de la terre promise. Ils sont en Inde ou en Asie du Sud-Est. J'ai fait des suppositions. Ils pouvaient voyager jusqu'à Singapour et l'Asie du Sud-Est. À quel point l'homme était-il interconnecté à cette époque? Quelle était la portée de Dieu par l'intermédiaire de son royaume, à titre d'exemple? Combien de personnes en ont entendu parler? Si la reine de Séba a apporté un pan, avec qui a-t-elle fait du commerce pour apporter le pan, et pourquoi l'a-t-elle fait? A-t-elle raconté un peu de l'histoire, ou son serviteur l'a-t-il fait? En passant, il est intéressant de lire les hypothèses que j'ai formulées à propos d'une trirème, mais nous avons lu des articles sur Hiram et la connaissance de la mer. J'ai cherché l'histoire d'un homme en 1976, un Polynésien qui a fait un voyage de 2600 miles, 4200 kilomètres. Il est allé d'Hawaï à Tahiti. Il n'a utilisé aucun outil de navigation. Il s'est contenté d'utiliser ce que les anciens de sa culture lui avaient enseigné. Il n'a utilisé que les étoiles, les vents, les courants, les nuages et les oiseaux. Et il a réussi à traverser l'océan d'Hawaï à Tahiti. Comparez cela au royaume de Salomon, à ses marines, à la distance parcourue par la reine de Séba et à la distance qu'elle a parcourue pour commercer. Si cet homme ayant une certaine connaissance des étoiles peut naviguer dans le grand bleu, comme beaucoup appellent l'océan Pacifique, sans aucun outil de navigation, qu'est-ce que la marine de Salomon était capable de faire? Il est amusant de spéculer qu'un jour nous saurons jusqu'où ils sont allés. Imaginez que vous traversiez l'océan avec pour seul GPS les étoiles de Dieu la nuit. Ne serait-ce pas incroyable? Vous pouvez traverser l'océan entier et tout ce que vous avez, c'est la création de Dieu qui vous montre comment le faire. Cette fois-là, vous serez peut-être encore là, mais non, nous dépendons maintenant du GPS, de ce smartphone avec sa carte pour nous emmener d'un point A à un point B. En guise de conclusion, je vous invite à lire l'Ecclésiaste. Que devons-nous apprendre? Allons à l'Ecclésiaste 1 et au verset 12. Ecclésiaste 1 et verset 12. Et tous les livres de l'Ancien Testament ici, il y a beaucoup plus à apprendre sur l'époque de Salomon. Lisons quelques versets ici. Et moi, le prédicateur, j'étais roi d'Israël et de Jérusalem. Et le verset 13, Ecclésiaste 1. J'ai donné à mon cœur le soin de chercher et de sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux, ce travail pénible que Dieu a donné au Fils de l'homme pour qu'il s'y exerce. Et au verset 14. J'ai vu toutes les œuvres qui se font sous les cieux, et voici que tout n'est que vanité et agitation de l'esprit. Alors il a regardé tout cela, il a regardé tout ce qu'il pouvait faire, et Salomon a dit que tout est vanité. Tout est inutile. Eh bien, toutes les bénédictions et tout le temps du royaume de Dieu sous son règne, sa conclusion était que tout est vanité. Alors qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque ici, et qu'est-ce qui pourrait manquer avec nous, et qu'est-ce qui pourrait manquer avec l'humanité dans le royaume à venir? Sous le règne de Salomon, ils avaient toutes les bénédictions physiques. Ils avaient tout, mais il leur manquait une chose. Allons à Romains 8 et au verset 5. Ils avaient donc toutes les bénédictions physiques. Ils avaient tout ce que Dieu pouvait leur fournir. Ils avaient la paix, la sécurité, la nourriture, l'abondance, la capacité de créer et de construire, mais tout cela était physique. Salomon dit donc que tout est vanité. Qu'est-ce qui manque? Passons à Romains 8 et au verset 5. Si vous avez toutes les bénédictions, vous avez tout ce que Dieu peut fournir et tout Israël, et nous savons que si vous lisez l'histoire de l'ancien Israël, ils ont rapidement changé après le règne de Salomon. Israël s'est rapidement égaré. Même Salomon, à la fin, s'est égaré pendant un certain temps. Ils n'ont rien changé. Lisons le verset 5 de la 8e épître aux Romains. Car ceux qui sont selon la chair s'attachent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit s'attachent aux choses de l'esprit. Car l'esprit charnel, c'est la mort. Mais l'esprit spirituel, c'est la vie et la paix. Ainsi, malgré toutes les bénédictions accordées à Salomon et à Israël, dans un sens, tout cela n'est que vanité s'il n'y a pas de changement dans l'esprit. Nous le savons tous. Nous l'avons tous étudié auparavant. C'est une leçon pour nous ou un rappel pour nous, un rappel que nous pouvons nous demander comment cela a été possible. Ils avaient tout et ils n'ont pas changé. Comment cela se passera-t-il dans le royaume? Encore une fois, ils auront tout, mais changeront-ils? Non. Nous devons changer d'esprit. Nous devons changer notre esprit. Nous devons nous concentrer sur les choses de l'esprit. C'est ce qui fait tout le sens de tout cela. En fin de compte, allons-y au et où l'effet de cela est ce que Dieu nous appelle. Allons-y au verset 14 de Romains 8. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, si ce n'est pas seulement physique, si nous faisons ce changement spirituel, si nous changeons notre cœur et si nous ne nous contentons pas de jouir de toutes les bénédictions comme l'était l'ancien Israël, et peut-être que l'Israël futur et l'humanité future le feront à nouveau, et si nous le faisons, c'est ce que nous sommes. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Donc, si nous avons un esprit spirituel et que nous ne nous contentons pas de jouir des bénédictions physiques, Dieu nous appelle ses fils, ses filles, une partie de sa famille. Pour conclure, revenons à l'Ecclésiaste 12. J'ai mentionné que Salomon s'était peut-être égaré pendant un certain temps, mais que la dernière chose qu'il a écrite était en fin de compte un enseignement pour nous, une indication de la façon dont il a fini, de la façon dont il a fini. Ecclésiaste 12. Et nous commencerons la lecture au verset 12. Nous lirons les versets 12 et 13. En fait, revenons au verset 10. Le prédicateur cherchait à découvrir des paroles acceptables, c'est vraiment un peu une revue, et que ce qui était écrit, était droit, et même des paroles de vérité. Ecclésiaste 12. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et comme des clous attachés par les maîtres des assemblées, qui sont donnés par un seul berger. Donc les paroles des sages. En outre, au verset 12, mon fils, Salomon nous parle, ou Dieu nous parle par l'intermédiaire de Salomon, sois averti, faire beaucoup de livres sans fin, étudier, c'est fatiguer la chair. Donc toute la sagesse, toute la connaissance, tous les livres qui peuvent être écrits, tous les livres qui peuvent être étudiés, en fin de compte, c'est la lassitude. En fin de compte, à quelle fin? À quelle fin s'il n'y a pas de changement, si c'est seulement physique, et s'il n'y a pas cet esprit spirituel dont nous venons de parler? Maintenant, au verset 13, la fin de l'affaire. La fin du règne de Salomon. L'exemple pour nous, l'instruction pour nous. Écoutons la conclusion de toute l'affaire. C'est la conclusion de toute l'affaire, la conclusion du règne de Salomon, l'exemple qu'il représente pour nous, et la dernière, nous pouvons le dire maintenant, l'instruction pour nous, c'est de craindre Dieu et garder ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme.